France Inter.
Cette semaine, nous allons nous embarquer dans le pays d'Agnès, Agnès Varda. Nous avons intitulé cette série « Varda, l'irrévérencieuse », car durant toute son existence et dans plusieurs disciplines, que ce soit le cinéma, les arts plastiques, la photographie, elle a transgressé les règles. Elle nous apprend encore aujourd'hui, quelques mois après sa disparition. Elle nous apprend à vivre, à réfléchir, à avoir de l'énergie et de la volonté de savoir. Varda, l'irrévérencieuse, 5 émissions donc. Ce soir, Agnès par Varda. Ce soir, Varda, l'irrévérencieuse numéro 1. Et comme chaque soir, on commence en musique avec The Doors, elle est Woman.
Je suis née à Ixelles, rue de la Couronne. C'est à côté de Bruxelles, enfin c'est Bruxelles, c'est un quartier de Bruxelles. Et ensuite, j'ai habité Bruxelles, près de la ville de la Corne, près des étangs d'Ixelles. Et ensuite, on est venu en France et j'ai été élevée à Sète toute la fin de mon enfance et de mon adolescence, avec des impressions très diffuses, parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Si j'ai fait un livre, c'est que cette mauvaise mémoire, que je suis obligée d'avouer ne faisant que s'aggraver, je me suis vue sur la pente descendante de l'oubli de plus en plus fatal, et je me suis dit, tant qu'il est temps, ce que j'ai pu choper déjà maintenant, je vais déjà le fixer.
Thank you.
if they say I never loved you. You know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam, cops in cars, the topless bars. Never saw a woman so alone, so alone, so alone, so alone. Motel money, bed of madness. The chain of mood, glad to sadness.
On a été 5 enfants, mais je me souviens surtout d'être la petite des 3 premiers. Après, j'ai été la grande des 2 derniers. Je me sentais au milieu, bien indépendante. Tout le monde dit que l'enfance est fondatrice de la structure, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas beaucoup de rapport à mon enfance. Ce n'est pas une référence pour les choses auxquelles je pense. Ce n'est pas une inspiration. Enfin, je ne sais pas. Alors moi, je rêve de voir une petite fille porter ce maillot de bain rayé et aussi porter un autre avec des grandes bretelles.
L'eau doit être gelée. Pour se baigner, il faut être dingue.
Peut-être qu'elle a fait un pari.
Moi, je le ferai pas. Ou alors pour une brique.
Elle est pas mal, hein?
On va la voir?
Non, Polo. J'ai du boulot.
Eh, laisse-moi conduire, là.
Une autre fois, Polo.
Ok.
Et donc, ma mère m'a appelée Arlette. Et j'ai souvent pensé que si j'étais née à Tours, je m'appellerais Tourette, à Clermont-Ferrand, Ferrandette ou Dieu sait quoi. Toi qui es de Malakoff, mais tu as échappé au pire. Si tu étais de Notre-Dame de Bellecombe, tu t'appellerais une Bellecombaise. Les Bellecombaises, ça va, mais les Bellecombaises, c'est dur à porter quand même. Bon, enfin. Donc, si on parle des noms, je fus donc Arlette. Et j'ai choisi d'être un autre nom. Je trouve plus beau Agnès. Parce que comme mon père était grec, j'ai cherché quand même les noms qui étaient dans la famille de mon père. Il y avait des Hélène, des Théodora et des Agnès. Bon, j'avais une sœur qui s'appelait Hélène. Théodora, c'était quand même un peu pompeux. Donc, il restait Agnès. Et j'aime beaucoup la sonorité de ça. Donc, j'ai choisi ça. Et alors, j'ai été le faire enregistrer au tribunal d'instance avec deux témoins. C'est pour avoir un papier comme ça. N'empêche que la sécurité sociale... Et des organismes comme ça sont butés, même si on leur montre les certificats. Donc, j'ai une carte vitale, comme tout un chacun, et elle s'appelle Demi-Arlette. Ce qui fait que quand ils appellent, les gens qui sont là, je ne réponds pas, j'oublie complètement, parce que jamais personne ne m'a appelé Madame Demi, même si j'étais très fière d'être associée à Jacques Demi. Et personne ne m'appelle Arlette. Donc, quand ils hurlent dans les couloirs, tu sais, « Arlette Varda !» Ce serait pas mal. Mais Arlette Demi, je réponds pas parce que j'oublie que c'est moi. Bref, donc j'ai changé et tous mes papiers, tout est Agnès. Sauf la carte vitale. Mais ce que je pense qui est plus important, l'énergie vitale que la carte vitale. Donc, d'accord.
Vous dormez dehors toute seule?
Ouais.
C'est par sport? Ou vous n'avez pas le choix?
C'est ça.
Vous n'avez pas de maison?
Ouais, c'est ça.
Pas de famille, où aller?
Pas de trop.
Je vous embête avec mes questions.
Un peu, mais ça va. Tous les chauffeurs veulent parler au stoppeur. Des fois, je vends des conneries.
Ah, c'est une invention, pas de famille, pas de maison?
Ça, non.
Il s'est trouvé que par la guerre, parce qu'il y avait un bateau, parce que tout ça, on s'est empilé sur ce voilier, et vraiment dans des cabines qui étaient grandes comme cette table, avec, tu sais, les couchettes croisées comme ça. Ce que j'ai appris dans cette vie de promiscuité familiale, 5 enfants, maman, puis des gens qui venaient de temps en temps nous aider, pas, mais des gens qu'on aidait plutôt, à les loger un tout petit peu. Alors, c'était qu'on était empilés vraiment, serré. Et ce fameux coin chambre à soie, j'ai pas connu. Et il y avait, dans ce qu'on appelle le carré d'un bateau, c'est-à-dire une espèce d'endroit de milieu, une table qui, elle, était comme ces tables de bateau, avec un contrepoids pour qu'elle reste horizontale, et qu'on avait bloqué puisqu'on était attaché au quai. Mais quand même, on faisait tous les devoirs sur la même table, parce qu'on était tous en classe. Et par contre, on était liés au quai, c'est pas un bateau navigant, avec un fil électrique, on était branchés, et avec un tuyau d'eau pour amener l'eau. Donc, c'était pas l'impression de naviguer. Ça bougeait un petit peu, mais dans les ports, pas beaucoup. Là où je sentais le truc bateau, c'était la petite nacelle, qui était la nacelle de sauvetage, tu sais, qui est accrochée sur les bateaux, et qui était le jeu des enfants. Parce qu'on n'avait pas de jeu, comme tous les réfugiés, on n'avait rien. On n'avait pas emmené des jeux. On avait déjà 7 dans la voiture, tu vois, ça allait. Donc, alors, le grand jeu, c'était de prendre le petit canot, et dans les petits canots de 7, le canot, la petite barque, ça s'appelle comme ça qu'on dit. Et avec bouée, parce que maman l'exigeait, des petites bouées en liège montées sur cordage. Parce qu'effectivement, chaque semaine, il en tombait un à l'eau. C'était le jeudi, hein. N'oublie pas que le jour de congé, c'était jeudi. Et je peux dire que presque chaque jeudi, dans les gosses qui venaient jouer avec nous sur le pont du bateau, tout ça était très étroit. Il y en avait toujours un qui partait à l'eau. Et petite bouée, on appelait après, on allait le chercher, tout ça. Donc les parents... envoyer leurs enfants jouer avec nous, étaient bien contents que maman dise « Vous inquiétez pas, ils auront des bouées. » On jouait, on avait une espèce de... ces corsets de liège, là. Moi, j'ai vécu avec ça énormément. Mais je ne l'ai pas vu comme une chose de navigation, je l'ai vu comme une vie originale. Et à l'école, on était considéré comme original. Parce que à l'époque, il fallait être en jupe. Moi, j'étais dans une école de filles, hein, bien sûr qu'il n'y avait pas de... Et que... Elle roulait les ailes, la directrice. Elle disait, il n'y a que les deux petites Varda qui ont le droit d'avoir des pantalons, parce qu'elles vivent sur un bateau, comme des marins. Mais ce n'était pas vrai, on ne vivait pas comme des marins. Mais il y avait quand même une petite passerelle à passer. Et donc, on avait le droit. Alors, qu'est-ce que c'était les culottes à l'époque? Les culottes de gymnastique, tu sais, l'équivalent de pantalons de jogging. C'est ça qu'on portait comme... On avait le droit d'avoir des culottes. Toutes les filles étaient en jupe. Alors, on était très enviés pour ça, quand même.
J'ai pas lu, par exemple, quand j'étais adolescente. Je ne lisais pas. J'ai joué très, très tard. Des jeux d'action avec des garçons et des filles. Des jeux d'abordage, des jeux de... Et pas des jeux de garçons. J'ai joué aussi même à la poupée. Je ne détestais ni jouer à la poupée, ni jouer à la cuisine, mais je passais absolument sans transition. Et c'est assez ce qui a été ma vie après, d'ailleurs. À des jeux violents, je veux dire. Alors, c'était l'abordage, après on était des marins. J'ai fait beaucoup de pêche. On partait sur les quais, on faisait de la pêche, on ramassait des gobies, pas pour les manger, d'ailleurs. Et puis j'ai beaucoup aimé la nature, j'ai découvert les promenades, les camps, les feux. Mais alors ça, avec exaltation, j'aimais ça vraiment. Marcher, dormir dehors, même sans tente, comme ça, dormir sur des rochers, les orages, vous voyez, ça j'aimais, mais à la folie.
Après la cigarette, pendant. C'est des chichis.
Des quoi?
Spécialité locale.
C'est des oreillettes, je sais pas. C'est trop fort, je sais pas ce que je mange. Je vous aimais bien la musique.
Ça, ouais. Ça et l'herbe.
Du côté de maman, ils sont protestants. Français, franco-suisse, Marseille, famille protestante, famille de Genève, tout ça. Et maman vient d'un père pasteur à Ferney-Voltaire. 12 enfants, la vie des pasteurs, des pommes sèches dans le grenier, tout ça, tout ça. Donc, la rigueur de maman, qui était protestante et comme ça, était tempéré incroyablement par une fantaisie naturelle qui lui faisait porter par-dessus son visage sans maquillage et ses petits cheveux tirés des bibis, des petits chapeaux comme on ne peut plus les imaginer, des petits chapeaux violets tout tordus avec une espèce de cornet comme les cornets des phonographes dans laquelle elle mettait des bouquets de violettes, des fleurs, des cerises. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi drôle que ma mère. C'est ce mélange incroyable de rigueur et de totale folie qu'elle se mettait sur la tête. J'aime énormément la trajectoire de ma mère, je me dirais, qui a eu cette enfance protestante rigoureuse, qui s'est émancipée en épousant un grec athée, donc, enfin, un grec devenu français, mais enfin, quand même, pas un peu métèque, quoi, pour la famille protestante. Athée violemment, refusant toute espèce d'éducation religieuse à ses enfants, qu'il a entraîné loin de sa famille, elle, amoureuse, est partie avec. Et puis, elle vit avec lui sa vie de femme, comme on dit. Elle a 5 enfants, et puis quand il meurt, elle reprend sa vie de jeune fille, elle recommence ses études parce qu'elle aimait l'art, les artistes, les peintures, et elle étudie extrêmement sérieusement. Elle a étudié avec une passion que j'ai trouvée extraordinaire. J'ai gardé tous ses cahiers qui sont très émouvants, elle prenait des notes partout, à l'école du Louvre, au Collège de France, à l'Institut. Elle suivait ça avec passion, et de temps en temps, quand elle avait dans les 82, 83 ans, par exemple, s'il y avait un petit-fils, enfin, elle avait 17, je ne sais pas combien de petits-enfants, 25, venait lui dire, est-ce que je peux venir te voir tel après-midi? Elle disait, ah non, pas cet après-midi, parce qu'avec mes petites camarades, on révise. Et les petites camarades, elles avaient 82, 80, 86 ans, et elles adoraient ce qu'elles faisaient. On n'écoutait pas de musique, on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas au cinéma, c'était vite réglé. On allait un peu se promener, on allait camper. Et j'ai pris le goût des arts, je peux dire vraiment, quand on a été réfugiés à Sète, par des gens qui m'ont fait, des gens tout à fait hors de la famille, mais que j'ai connus comme ça, qui m'ont fait écouter, je m'appelle Rameau, puis Mozart, je n'avais jamais su qu'il y avait de la belle musique comme ça, qui m'ont fait lire des livres. Bon, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire à 14 ans, mais j'ai aimé ensuite lire avec passion. Et dans mon adolescence et dans la fin de mes études, donc entre, disons, 13 ans et 17 ans, jusqu'à l'âge du bachot, comme ça, étant, me sentant exilée à Paris, parce que le midi me manquait terriblement, et la vie aventureuse et d'être dehors et tout ça me manquait. Je détestais Paris, je détestais les parisiennes, le snobisme des filles à l'école et le truc qu'il fallait s'habiller, tout ce truc qui est très parisien, quel que soit l'endroit du lycée. J'ai beaucoup lu de poèmes, j'ai beaucoup lu les surréalistes, j'ai beaucoup été dans les musées, j'ai suivi l'école du Louvre dès la première. Enfin, je veux dire, avant même d'avoir passé mon bachot, j'avais déjà deux années d'école du Louvre. J'ai énormément aimé découvrir ce qui, pour d'autres gens, existe aussi, c'est-à-dire la beauté d'émotion qu'on peut trouver dans les livres, dans les poèmes, chez les peintres, dans la musique aussi. Je me suis nourrie de ce qu'on pourrait appeler la culture, mais pas du tout pour être cultivée, vraiment par... c'était comme si je mangeais, je buvais. Et quand je me suis demandé ce que j'allais faire, donc j'ai hésité entre des tas de métiers, et je me suis orientée presque tout à fait par hasard vers la photographie.
Devant cette furie échevelée, je ne pensais qu'à toi. Toute lisse, douce, exquise. Comme dans les contes, il y a des princesses et des souillons.
Je te vois venir et c'est non.
Eliane, on est mariés, tu veux jamais.
Chez mes parents, j'étais à l'aise. Ici, dans un placard, j'ai pas envie. Quand je pense que ta tante a 7 pièces pour être toute seule, c'est pas juste.
Mais tante Lydie n'est pas éternelle.
Oui, mais nous, on gâche nos plus belles années. Faute de fric et d'espace.
Écoute, arrête de te plaindre. T'avais vu cette routarde, elle a rien. Mais rien, pas d'abri, pas d'argent. Je t'assure que...
Tu vas pas me casser les pieds avec une crasseuse qui vous a blousé? Toi et ta landier? Cette prof, toujours en transe de quelque chose? Arrêtez de vous apitoyer sur une fille en cavale. C'est peut-être une criminelle en fuite, une malade mentale ou une droguée?
C'était un homme, c'était un dessinateur industriel qui était devenu ingénieur. Je m'entendais pas bien avec lui, je l'aimais pas beaucoup. Je l'aimais pas beaucoup, mais je le trouvais violent, je le trouvais tyrannique, et c'était des choses que je ne trouvais pas estimables. C'était pas tout à fait conscient à 5, 6, 10 ans. 10 ans, c'était très conscient déjà. Je trouvais que c'était pas bien d'exercer une tyrannie sur les gens, pas seulement sur nous, c'est même pas dans la famille d'ailleurs. J'aimais pas comme il parlait aux gens. Je pensais qu'il ne les respectait pas. C'est par exemple, je lui en voulais de ne pas avoir des rapports. Amicaux avec des gens qui, je sais pas, des gens dans la rue, des gens qui travaillaient ou. J'aimais pas beaucoup ce qu'ils représentaient. Mais on a été assez vite séparés de lui, si je peux dire, parce que la guerre a fait qu'il était pas là, etc. Donc maman s'est retrouvée seule à aller nous élever. C'est pas qu'il n'existait pas d'ailleurs, c'est pas ça que je veux dire, mais on le voyait très peu, il venait de temps en temps, et puis.
Mon père était un grec honteux. C'est un grec qui ne dit pas qu'il est grec, qui n'élève pas ses enfants en grec, qui ne leur fait pas connaître ses origines grecques et tout ça. Et moi, j'aurais été très fière qu'on m'en parle. Il me semble qu'après, avec une frénésie, j'ai lu, relu l'Odyssée, j'ai étudié l'art. Par contre, très contrairement à mon père, chez moi, la volonté de résistance, elle est très interne, elle est très liée à ma vocation. Elle n'est pas liée à une réussite sociale. Je veux dire, si je ne suis pas invitée dans des premières ou que la profession ne me reconnaît pas, à la limite... C'est pas très grave, mais je voudrais pas lâcher l'idée que je me fais de qu'est-ce que c'est de créer, ou même si le mot est ridicule, d'être une artiste un peu honnête. Alors, ce truc honnête est un peu ridicule aussi, parce que je crois que les artistes sont tous des fraudeurs, y compris moi. Tous les créateurs trichent, combinent, manipulent, y compris moi. Mais que, à l'intérieur de toute cette manipulation, qui est le fait même de créer, Ça, je le sais, tous les gens qui écrivent au fond le savent. Mais je pense qu'à l'intérieur de tout ça, on a sa propre sincérité. Ce petit chemin qu'on se choisit, même si on vagabonde, même si on fait l'école buissonnière, j'aime bien savoir quel chemin j'ai choisi et que, tourne, je prends quand même ce chemin. Je me rends compte à quel point pour les autres c'est une référence. J'ai même fait tout un film sur l'enfance de Jacques Demy, donc Jacques Audenante, et Jacques pour qui l'enfance était la clé, l'origine, la base, l'inspiration, l'échelle de valeurs. Pour moi, l'enfance, c'est très bien, c'était à condition qu'on devienne grand, quoi. Maman avait tendance à nous bourrer le crâne en nous disant, maman, être maman est le plus beau métier du monde. J'ai entendu ça 2-3 fois. J'étais pas sûre que c'était juste. Je me souviens que notre père nous disait, je vous marierai à des ingénieurs qui travailleront pour moi. Ça me semblait pas non plus un avenir magnifique. Donc, devant des propositions qui n'avaient rien de méchant, qui étaient plutôt familialement chaleureuses, mais qui n'avaient aucun sens pour moi, je me disais vivement que je sois grande et que je décide ce que je ferai. Voilà.
J'ai, à partir de mon adolescence, des souvenirs extrêmement colorés, extrêmement sonores, en pointe, si vous voulez, en émotions vives. Alors que de mon enfance, dont on m'a parlé, bien sûr, ma mère m'en a parlé, je n'ai pas de souvenirs en pointe, je n'ai pas de moments aigus et je n'ai pas de souvenirs de couleur. Alors que la couleur joue un rôle essentiel dans ma vie. Donc, il me semble que j'aurais des références couleurs. J'irais me jeter dessus. Je n'en trouve pas dans mon enfance. Des formes, des dessins, des choses un peu ouatées et dont je me souviens comme des choses un peu tristes. Je ne crois pas. Je crois que j'ai eu une enfance un peu morne. Mais je la trouve un peu sans intérêt. J'ai, par exemple, alors des souvenirs précis de mon enfance. J'ai toujours travaillé au milieu du bruit. Des souvenirs de devoirs de classe faits dans la petite enfance et même dans l'adolescence. Faits dans des petites pièces où il y avait 3-4 personnes qui chahutaient. Ça, par exemple, je peux parfaitement trouver la source de ma façon de travailler. Moi, je travaille dans le chahut. Dans un bureau où tout le monde rentre, sort, téléphone, je peux parfaitement me concentrer, écrire un texte important pour moi, ou enfin bon. Des choses comme ça, des références de travail, de comportement. Disons que je n'aimais pas ce que représentait pour moi le rapport d'un enfant à sa famille. Voilà. Ça, je me souviens de ça. Au fond, il y avait un refus de la position de l'enfant dans la famille. Je ne crois pas que la famille en soi est atroce. Je pense qu'un enfant abandonné, c'est bien pire. Je ne pense pas que je souhaite être dans la rue. Je n'aimais pas la puissance parentale, la puissance paternelle. L'idée qu'on était manipulé, je ne l'aimais pas, ça. Je crois que j'ai eu une enfance gentille. Et que dès que j'ai commencé à avoir 3 idées dans la tête, elles ont été des idées de révolte. Et je peux pas dire que j'avais à souffrir. C'était des révoltes, j'allais presque dire idéologiques. Très vite. C'est drôle parce que quand on me dit vous êtes féministe, aussi loin que je me souvienne, c'est rigolo, et c'était pas les livres, c'était pas les théories, c'était pas la mode. Aussi loin que je me souvienne, j'avais une idée d'égalité. Parce qu'à cet âge-là, on fait pas les nuances, hein, les différences et toutes les choses qu'après on revendique, justement. Mais par exemple, j'avais des frères. Moi, je les aimais beaucoup. Je veux dire comme ça, je m'en foutais, mais je me disais jamais, ils peuvent faire des choses que je peux pas faire, par exemple. Je me souviens pas m'être dit, ah, il pourra faire des études, moi pas, ou il est intelligent, moi pas, ou il est fort. Oui, je me souviens que mes frères étaient plus forts que moi, physiquement, mais je me disais, peut-être, je suis plus astucieuse. Enfin, toutes les choses qui ne me donnaient jamais l'impression que c'était un handicap. Le jeu social. Où l'on plaçait les femmes et les filles, j'en avais parfaitement conscience qu'il était déplaisant, qu'il était moche. Et je me suis toujours dit des choses, mais toutes petites, des choses comme il faut gagner sa vie, ce qui était non mais vous comprenez, il y a quand même longtemps, je ne suis pas un bébé. C'était pas si courant que les filles se disent il faut être indépendante, il faut pas dépendre d'un père, d'un mari, d'un fiancé, enfin les choses qui étaient quand même proposées à la plupart des femmes encore maintenant. Enfin ça a quand même beaucoup changé. Dans le milieu de petite bourgeoisie où j'étais. A priori, je suppose qu'on prévoyait pour les filles une petite éducation et ensuite un bon mariage. C'était le grosso modo du projet, qui me semblait grotesque. Oui, j'avais pas du tout une idée théorique de femme, homme, société. Je veux dire, j'avais rien lu, je savais rien. Mais je trouvais grotesque l'idée qu'on pouvait dire, ce sera comme ça, ce sera comme ça. J'ai fait des études bien, gentiment, et comme ça. Et après, moi, j'ai quitté ma famille très, très jeune. On est monté à Paris parce qu'il y avait un de mes frères qui voulait faire polytechnique. Et que de toute façon, la guerre était finie, tout ça, puis que si les enfants deviennent grands, il faudrait peut-être qu'ils fassent un peu d'autres choses. Et puis eux, ils sont partis s'installer en Belgique. J'ai fait que je suis restée seule. Moi, j'avais venu de passer mon bachot, j'avais 16 ans, comme ça, 16 ans et demi. Ils sont partis 2 mois après, et j'ai vécu seule très tôt, au fond. Et ça m'a convenu très bien.
C'était pas le même type de route que ce que tu as fait, quand même. Chacun de vivre ses envies, hein. Et puis voilà. Tu te balades seule? Tu souffres pas trop de la solitude?
Seule, c'est bien. J'ai passé des Noëls seul. Le 25 décembre, je voyais se baffrer. Moi, j'étais seul.
Alors, c'est vrai, par exemple, c'est vrai qu'on dit que je suis dure. Bon, moi, je crois que je suis tendre comme un loukoum, mais bon, c'est parce que mon père était grec et qu'on a un peu cette idée des choses douces, mais je suis pas douce non plus. Bon, alors, on me dit brusque, c'est vrai. On me dit sèche, c'est pas vrai. Donc, on me dit entière, je suis très partagée, toujours contradictoire. Vous voyez, donc, je n'arrive à me définir que parce que j'entends et que, bon, ça jacasse toujours un petit peu autour des gens, même si ma place dans la société du cinéma est minime et discrète. J'ai une sorte de pas très bonne réputation. Je me souviens d'un producteur avec qui j'avais rendez-vous. Je commence à lui parler de mes projets, puisqu'on va toujours leur vendre quelque chose, enfin, leur raconter quelque chose. Il m'a quasiment coupé pour me dire, mais on m'avait dit que vous étiez une emmerdeuse. Et bon, il y a cette espèce d'idée que je suis, bon, que à force de ne pas avoir la langue de bois et d'être considérée comme qui dit un peu trop les choses en face, on se crée une réputation comme ça, de quasiment chieuse, quoi. Et je suis pas sûre que je suis ça. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une description, soit dans la société, je ne suis pas ce qu'on croit. Maintenant, si moi je me pense envers moi-même, je sais que je suis vivante, très vivante, vive. Et en même temps, je pense toujours à ma mère. Quand j'étais toute petite, elle m'appelait ma petite ombre. J'étais toujours derrière. Et je me vois comme l'ombre. Je me ressens comme l'ombre de celle qui est au soleil. Je me vis comme l'ombre de ce qu'on voit. Je veux dire que cette idée de l'ombre, c'est Chimène ou l'infant qui dit « Je cherche le silence et la nuit pour pleurer ». Il y a un truc comme ça. Il y a aussi dans les poèmes de Baudelaire cette idée que les chats cherchent l'horreur des ténèbres. Et je n'aime pas la nuit. J'aime le jour, j'aime le soleil, j'aime être dehors, mais je me ressens comme la part d'ombre de ça. Donc, mon travail s'articule entièrement entre comment laisser, peut-être, comment dire, s'exprimer, je ne sais pas, mais enfin, trouver des images et des mots qui correspondent à cette ombre, et en même temps qui sont ce qu'on peut partager au soleil, un instant, un film, des images, de la lumière. Je suis obstinée plus que têtue, parce que têtue, ça voudrait dire que j'écoute pas ce que disent les autres, et comme... Les autres disent souvent des trucs qu'on peut voler, chiper et utiliser. Donc, je veux dire, c'est à ce stade-là. Têtu, je suis pas. Mais obstiné, ben oui. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous ne pas être obstiné dans un métier où c'est si dur de trouver l'argent, si dur de convaincre quelquefois des grands acteurs ou quelquefois des gens de la rue de les faire travailler? Il faut être obstiné. Il faut pas perdre le fil du film qu'on imagine. Là, il y a beaucoup de femmes cinéastes. Il y en a presque autant dans les jeunes cinéastes maintenant que des garçons. Elles sont très énergiques. Elles ont plein de talents. Mmh. Qu'elles ont, toute l'énergie que j'ai eue, simplement, à part que d'être toute seule, elles sont beaucoup et que ça ne compte plus comme. Vous savez, venez la voir, hein, c'est la femme, venez la voir. Mais là.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant. Des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Il y a la radio?
Non.
Tout le confort, mais pas de radio. Il est nul, ton bahut. Même pas de radio.
Bon, allez, je m'arrête ici. Alors, tu te débarques.
Tu transportes pas gratis, toi, hein? Bon, allez, salut.
Alors Pierre-Marc Abru, première question, est-ce que notre invité a un caractère secret ou ouvert ?
Elle doit avoir un caractère assez secret, enfin tout au moins assez difficile à pénétrer, pas, peut-être pas volontairement secret, mais elle ne s'explique pas, elle ne se raconte pas.
Je crois qu'il est plutôt ouvert dans mes rapports avec les gens, mais que quand on me connaît bien, on s'aperçoit finalement qu'il est secret, enfin je crois que c'est ça.
Est-elle intellectuelle ou instinctive ?
Terriblement intellectuelle, ça, terriblement.
Je crois que je suis instinctive et on me croit intellectuelle.
Est-ce qu'elle est timide ou sans aucun complexe devant les autres ?
Elle devrait être assez timide.
Non, pas timide.
Son humeur est-elle fixe ou changeante ?
Elle est d'humeur changeante, très certainement.
Très inégale.
Est-ce que ça peut aller jusqu'à la dépression ?
Oui, je pense qu'elle doit avoir des crises très fortes de dépression qui viennent d'une sorte de solitude, pas morale, mais une solitude devant la vie, devant les autres.
Est-ce que cette humeur changeante peut aller jusqu'à la dépression ?
Oui, oui, très facilement.
Est-ce qu'elle est vulnérable ou indifférente à ce qu'on lui dit ?
Elle doit être assez vulnérable à ce qu'on lui dit.
Très vulnérable.
Est-ce qu'elle redoute de prendre une décision ou est-ce qu'elle prend sa décision très facilement ?
Elle doit hésiter à prendre une décision. Elle passe par une sorte d'inquiétude justement qui donne ses dépressions. Elle ne doit pas être absolument sûre d'elle-même quand elle agit.
Je souffre jusqu'à ce que je l'ai prise et quand je l'ai prise, je souffre encore. Ce qui ressemble à une décision me fait horreur.
Est-ce qu'elle aime que les gens soient plutôt tendres avec elle ou est-ce qu'elle est indifférente aux attentions, les petites et les grandes ?
Je pense qu'elle a besoin que les gens soient tendres avec elle.
Ah, j'ai très besoin qu'on soit gentil avec moi.
Est-ce qu'elle aime se déplacer, voyager ou au contraire rester au même endroit ?
Alors là, il y a deux éléments. Elle doit très certainement aimer sa maison, là où elle est, et en même temps, elle doit avoir une tendance à faire des voyages, mais des voyages assez courts, pas d'immenses voyages où elle quitterait tout, au contraire, des petits déplacements rapides et fréquents.
J'adore bouger, j'ai toujours un pied dehors.
Est-ce qu'elle a le sens de la justice ou est-ce que l'injustice ne la révolte pas plus que la moyenne des gens ?
Elle a très fortement marqué le sens de la justice et je pense surtout dans l'enfance d'ailleurs, ce qui est assez curieux, mais enfin elle doit l'avoir gardé.
J'ai bien peur d'avoir un sens maladif de la justice.
Est-ce qu'elle aime la musique ?
Elle doit aimer la musique, beaucoup.
J'aime beaucoup, ça compte beaucoup. J'ai souvenir de chansons qui étaient que j'entendais chez moi et que je détestais. Exemple, Marinella de Tino Rossi. Marinella, on reste encore dans mes bras. J'ai horreur de cette chanson. Elle a marqué mon enfance parce que sans doute mon père la chantait ou il aimait Tino Rossi, je ne sais pas quoi. Et une que j'aimais bien dans les chansons que j'ai entendues d'enfance, c'était Parlez-moi d'amour. Celle-là, je l'aime. Mais elle me semblait quand même un tout petit peu vulgaire. Et par contre, j'ai aimé énormément apprendre des chansons du temps passé. Et je me souviens qu'avec mes sœurs, parce qu'on était une famille nombreuse, et pour faire plaisir aux parents, on avait appris à plusieurs voix et accompagné au piano, donc nous nous accompagnions nous-mêmes, enfin une de nous, je ne sais pas, cette très belle chanson, « Plaisir d'amour ne dure qu'un instant ». Ça, c'est une chanson que je trouve sublime. Et plus tard, elle s'est associée au temps des cerises, qui est une chanson que je trouve sublime aussi. Donc, si vous voulez, il y a un mélange là de souvenirs qui se sont orientés vers des choix.
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là.
Lundi des patates, mardi des patates, mercredi des patates aussi. Jeudi des patates, vendredi des patates, samedi des patates aussi. Dimanche un gratin de pommes de terre.
Dès que j'ai eu l'âge de choisir un petit peu, vers 10-11 ans et comme ça, j'ai souhaité apprendre des chansons anciennes. J'aimais les ballades du Moyen-Âge. Par exemple, sur les marches du palais, qui a au moins 17 ou 18 couplets, vous voyez ce que je veux dire? J'aimais l'idée des ballades, des chansons de métier, j'aimais les chansons de métier. J'aimais les Noëls, mais pas les Noëls catholiques, chrétiens, tino aussi, on est reparti. Les vrais Noëls anciens, les Noëls, vous savez, des toiles de berger, des choses très populaires. J'aimais les chansons populaires, énormément. J'apprenais les chansons populaire d'Amérique du Sud, vous savez, duerme, duerme, negrito, tout ça. Ce sont des chansons qui ont compté pour moi, mais là, vous parlez déjà d'un âge conscient, entre 12 et 18 ans, si vous voulez, les chansons. Et puis, des chansons qui m'ont le plus marqué dans cette époque, ce sont les chansons dont les paroles étaient de Prévert, les Prévert Cosma, Démons et Merveilles. Et puis, j'ai aussi aimé Rappelle-toi, Barbara, Il pleut sur Brest, je trouvais ça magnifique. Et à propos de Barbara, et à propos de pluie, j'ai aimé quand elle a chanté Il pleut sur Nantes. Oh, ça, c'est une chanson que j'aimais, mais on est déjà beaucoup plus loin, là. Je dois dire que Jim Morrison et les Doors a fait quelques chansons que j'ai dû écouter, je ne sais pas, 150 fois. Bon, bien sûr, Light My Fire, mais c'est la plus connue. C'était un type de voix qui était très... C'était une voix de poète, c'était une voix habitée. Et tu sais, la musique, par exemple, c'est dans les années 50 que des musicologues ont redécouvert Albinoni. Je sais pas, il avait disparu de la circulation. Et ce fameux adagio, c'est tout d'un coup inondé. On l'entendait partout, partout. Et il a été joué, repris. Moi, je me souviens l'avoir écouté beaucoup ici, dans cette cour, enfin, dans cette maison, avec la porte ouverte et tout ça. Et quand je préparais la pointe courte, que je l'écrivais ici, dans la cour surtout d'ailleurs, parce que je vivais beaucoup dehors, et j'écoutais Vivaldi, les concertis de Vivaldi. Et je pensais que cette pureté de rythme et de construction m'aiderait à faire quelque chose de construit.
Oh, je pense toujours à la chanson, hein, on le sait. J'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien. Vous savez, chanter comme ça, c'est ça que j'aurais aimé le plus. Quand j'étais jeune, c'était Piaf qui était une image extraordinaire pour moi. Petite femme comme ça, maigre, pas particulièrement jolie, avec une puissance, une capacité d'émotion, une capacité de faire passer son incroyable énergie, son talent à tous ces hommes qu'elle a aimés. C'était une image magnifique pour moi. Ça ne veut pas dire que Jeanne Moreau ne chante pas bien, mais je veux dire que Jeanne est chanteuse comme ça, en plus de comédienne, tandis que Piaf, elle n'était que une voix qui faisait passer comme ça l'émotion du monde et l'amour, et l'amour, l'amour.
La vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi, que m'aborde, si tu m'aimes, par moi je mourrai aussi.
Je suis un praticien de l'analyse, mais je suis surtout un théoricien de l'analyse, plutôt un philosophe de l'analyse.
En quoi êtes-vous particulier ?
Ce qui me rend particulier, c'est d'avoir essayé de mettre dans la constitution de l'homme l'autre en priorité par rapport au sujet. C'est-à-dire que c'est une anti-philosophie du sujet. C'est une philosophie qui montre comment l'homme trouve son origine d'abord dans l'autre.
Est-ce qu'elle a le goût de l'indépendance et de la liberté ou le goût de la soumission ?
Elle a le goût de l'indépendance, elle aime être libre. Enfin, ce n'est pas capital, mais elle est indépendante, mais indépendante à deux, ou avec un groupe d'amis. Elle n'est pas solitaire.
J'aurais pas le goût de la soumission, mais celui de la dépendance.
De la dépendance ?
De la dépendance. Mais j'ai aussi un grand appétit de liberté, je ne sais pas.
Dans son caractère, qu'est-ce qui prime, la sensibilité ou l'intelligence ?
Oh, c'est très certainement l'intelligence, mais elle est sensible, seulement elle raisonne sa sensibilité, elle l'analyse, elle l'étudie. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'est quand même l'intelligence qui est maître de la situation, qui domine tout. Elle est très sensible, mais cette sensibilité n'est pas directe, n'est pas spontanée. Elle ne réagit pas sur sa sensibilité, mais à travers son intelligence, par son intelligence. Voilà ce qui est important.
Je crois vraiment que c'est la sensibilité.
Notre invitée est-elle plus vive qu'apathique ou plutôt apathique ?
Oh, elle n'est pas apathique du tout, elle est certainement très vive et très rapide dans toutes ses réactions.
Je suis très vive.
Est-ce qu'elle s'intègre à la collectivité ou est-ce qu'elle est asociale ?
Je crois que là, alors sur ce plan-là, elle est assez indépendante, oui. Elle est plutôt asociale, enfin, la société ne l'intéresse pas en tant que telle.
Je suis très sociale.
Est-ce qu'elle est optimiste ou pessimiste ?
En vérité, elle doit être quand même dans l'ensemble assez pessimiste. Le caractère n'est pas gai, enfin, profondément.
Je crois pessimiste.
Est-ce qu'elle travaille par à-coup ou régulièrement ?
Oh, elle travaille par à-coup. Le travail n'est pas du tout régulier. Elle travaille par à-coup, mais avec beaucoup de brusquerie. Elle s'entête dans son travail, mais par moment, par période.
Naturellement, je travaillerai que par à-coup. Et en fait, je m'oblige un petit peu à travailler régulièrement. Mais comme ça, si je me laissais aller, je ne travaillerais que par à-coup.
Est-ce que son goût serait classique ou plutôt baroque ?
Oh, son goût est très certainement baroque, pas du tout classique. Elle n'a pas du tout un goût classique.
Ah là, c'est vraiment les deux. Hein. Je suis vraiment autant attirée par le classique qui me fascine que par le baroque qui me fascine. Le goût, c'est pas une chose qui s'arrête, ça vit.
C'est-à-dire, c'est ça mon projet. Filmer d'une main mon autre main. Rentrer dans l'horreur. Je trouve ça extraordinaire. J'ai l'impression que je suis une bête. C'est pire, je suis une bête que je ne connais pas. Et voilà l'autoportrait de Rembrandt. Mais c'est la même chose en fait. C'est toujours un autoportrait.
Il y a beaucoup de femmes qui écrivent dans la cuisine, qui lisent dans la cuisine. Il faut retrouver la cuisine comme la salle. Vous savez ce qu'on disait autrefois ? La salle, bon, ça suppose qu'on a une cuisine un peu plus grande que le... Mais on peut donner une pièce, quand on en a trois, à la cuisine, et dire que c'est là qu'on mange, c'est là qu'on se rencontre. Parce que c'est vrai qu'en mangeant, la facilité de communication avec les enfants, par exemple, on parle beaucoup plus si on peut manger avec eux à table. Et moi, j'aime bien lire le journal à la cuisine, puis j'aime bien écrire à la cuisine.
Ingénieur, physiologiste et savant, inventeur de la chronophotographie à pellicule mobile, Marais est un visionnaire. Il a décomposé le mouvement. Avant Muybridge, avant les Frères Lumière, il est l'ancêtre absolu des cinéastes. On est fiers de faire partie de sa famille.
Je suis tendance, oui, c'est bien connu. D'ailleurs, j'ai des cheveux à deux couleurs. Oui. Et ça, c'est pur que tendance, c'est punk. Parce que mes cheveux blancs poussent, puis j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout parce que je me reconnais pas toute blanche. Alors j'ai fait cette tricherie-là. Mais en fait, c'est mes vrais cheveux. Et puis je peins le bord, je fais comme un petit chapeau coloré. Puis c'est plus facile quand on me perd dans les foules, comme ça on me retrouve plus vite, quoi. Non, tu sais, chez les petits-enfants, ils rigolent un peu. Je crois qu'ils sont très indulgents avec moi. Tu sais qu'ils m'appellent Mamita Punk.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Oui, pas mal. Parce que le côté punk, en fait, petite, jeune, j'essayais d'être originale. Je sais pas pourquoi, mais je portais des pantalons à carreaux quand c'était pas la mode. Je portais des couleurs. J'ai porté du violet quand c'était une couleur pour demi-deuil. Non, j'ai porté beaucoup de choses. Des robes fleurs et tout ça, avant que ce soit le hippie et les flower children et tout ça. Et au fond, des fois, je m'en veux un peu avec le recul. Je sais pourquoi je voulais. Est-ce que je voulais me faire remarquer, comme on dit ? Mais je crois pas ça. C'était l'idée de pas faire comme tout le monde, voilà. De pas avoir les mêmes habits que les copines à l'école, de pas avoir les mêmes choses. Au fond, c'est plus un esprit d'indépendance que de se faire remarquer. Parce qu'on me remarquait pas spécialement, mais on savait que j'étais pas dans l'uniforme. Je peux pas dire que je suis la mode et tout ça, tu vois, que j'essaye pas. Et j'essaye de penser aux choses quand les gens n'y pensent pas.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit.
petit, tellement je suis un grand, grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit, tellement je suis un grand, grand petit con.
Je vous passe devant, j'étais là avant vous, vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne. Je suis mon propre but, au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, que tout petit, tellement je suis un grand, grand petit con.
Un grand petit con.
C'est pas ce que je veux.
C'est avec Grand Petit Con de Mathieu Chédide que nous nous quittons ce soir, en espérant vous retrouver demain pour le second épisode autour du cinéma d'Agnès, avec l'universitaire américaine Dominique Bluer et une conversation atypique entre Serge Danet et Agnès Varda qui date de 1985. Merci à Élodie Royer qui a fait un travail remarquable d'archives et de recherche dans les archives. Merci à Anne-Sophie Dazard et à Jean-Baptiste Audibert pour leurs conseils. Merci à Lilian Allôme qui réalise tous les soirs cette émission. Et merci aux éditions Arte pour le coffret des documentaires d'Agnès Varda et pour tous les autres films.